Bien, je vous remercie tous. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé au milieu du guet, comme je le fais chaque fois, ce qui permet de maintenir un certain élément de suspense. Il y avait un petit point que je n'avais pas évoqué, donc je vais faire un petit retour en arrière, une anecdote, une affaire. Il semblerait qu'en 1993, Ehud Barak, qui était encore chef d'état-major de l'armée israélienne, ait projeté une tentative d'assassinat de Saddam Hussein par un commando de l'armée israélienne, ceci pour venger le tir de Scud durant la guerre de 1991. Il avait donc invité les responsables du gouvernement israélien à assister à une répétition générale sur une base militaire israélienne. Et cette répétition a tourné à la catastrophe puisqu'un tiers de missiles qu'on croyait être désarmés a eu lieu et a tué plusieurs soldats israéliens. Et donc Ehud Barak s'est immédiatement enfui du lieu de l'explosion pour ne pas être compromis dans cet échec navrant, ce qui lui a été beaucoup reproché ultérieurement. Alors évidemment, à l'époque, on avait dissimulé l'affaire, enfin on avait été obligé évidemment d'évoquer les pertes humaines, mais on avait essayé d'étouffer l'affaire et elle n'a été vraiment connue que très récemment où des articles de la presse israélienne ont reconstitué la totalité de l'événement. Donc ça, c'était un petit retour en arrière. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est donc la suite de la fois précédente, c'est-à-dire je vous avais laissé au moment où environ 400 Palestiniens membres des mouvements islamistes avaient été expulsés vers le Liban les refusant de les laisser entrer sur son territoire, se trouve dans un espèce de no man's land à Marj el-Zour, et les négociations ont été suspendues à cause de cette affaire. Et l'Égypte, pressée par les Américains, travaille à rétablir les négociations, ainsi que les Syriens. Donc c'est là où je vous avais laissé. Dans les réunions inter-arabes, le ton monte entre les Palestiniens et les Égyptiens sur cette affaire de Marj el-Zour. Pour l'Égypte, c'est toute sa crédibilité politique qui est en jeu. Elle a besoin de montrer aux États-Unis qu'elle est efficace. C'est une des conditions, justement, du maintien de l'aide américaine à l'Égypte. Quant aux expulsés de Marj el-Zour, ils organisent une marche de protestation contre de la trahison et la lâcheté de toutes les parties arabes et dénoncent le processus de paix. Mais quand ils se rapprochent de la zone d'occupation israélienne, ce qu'on appelle la zone de sécurité, ils sont accueillis par des tirs de but israélien. Finalement, l'affaire est réglée par un passage d'Arafat à Damas, où il rencontre Hafez al-Assad, et il accepte la demande de Hafez al-Assad d'accepter la reprise des négociations pour le 27 avril 1993. Chacun est content, puisque Arafat a montré qu'on avait besoin de lui pour reprendre les négociations, donc montrer que c'est bien lui qui contrôle la délégation palestinienne. Et Assad a montré par là même qu'il était réellement sincère quand il veut faire progresser le processus de paix. Alors, les États-Unis, eux, déclarent qu'ils s'engagent à être un partenaire à part entière, full partner, dans le processus de paix. Mais clairement, pour les délégations arabes, ils apparaissent totalement alignés sur les positions israéliennes. La délégation palestinienne s'est rendue à contre-cœur à Washington. Elle est très largement hostile à cette décision. Ses membres sont conscients que leur popularité a bien baissé dans la population palestinienne. Le reproche habituel est « Comment pouvez-vous obtenir l'application de la résolution 242 alors que vous êtes incapable d'obtenir l'application de la résolution 799 qui demande le retour des expulsés palestiniens ?» Ils ont été obligés de céder devant la double pression d'Arafat et des États arabes, et le Hamas se trouve en bonne position pour revendiquer le monopole du patriotisme en dénonçant la reprise des négociations. C'est un communiqué publié à Amman à ce moment-là. L'escalade de l'intifada et les opérations contre l'ennemi sioniste seront la réplique concrète à cette décision adoptée par une minorité isolée et rejetée par la majorité écrasante du peuple palestinien. Des menaces de mort sont adressées aux négociateurs palestiniens, aussi bien de la part des radicaux arabes que des extrémistes juifs. Et le Fatah prend la défense des délégués palestiniens. Je cite, « Toute personne ou groupe qui menacera la délégation de quelque façon que ce soit en sera tenue pour responsable. Toute menace contre un membre de la délégation, sa famille ou ses biens sera considérée comme une attaque contre le Fatah. Le Fatah prendra toutes les mesures nécessaires pour punir quiconque qui menacerait ou mettrait en danger leur vie. » Une centaine de gardes du corps sont recrutés parmi les militants du mouvement afin d'assurer la sécurité des personnalités palestiniennes. Évidemment, une protection israélienne les aurait clairement désignés comme étant des collaborateurs. Quelques milliers de travailleurs palestiniens ont été autorisés à reprendre leur travail en Israël afin de satisfaire les besoins les plus urgents de l'économie israélienne. La tension reste très forte dans les territoires, toujours soumis au bouclage. Des violences font plusieurs morts du côté palestinien dans la bande de Gaza. Et c'est donc dans ce contexte général que vont reprendre les négociations de Washington, la 9e session des négociations. Mais au Liban Sud, les tirs du raquette de Hezbollah le 22 avril sur la zone de sécurité s'étendent jusqu'à la Galilée, blessant légèrement 3 femmes. Rabin accuse les miliciens pro-iraniens du Liban de vouloir ruiner politiquement le processus de paix. Les premiers jours de la 9e session semblent se montrer encourageants. Pour la première fois, les Israéliens paraissent envisager l'aspect territorial de la future autonomie palestinienne qui pourrait voir se doter de compétences législatives. Des groupes de travail chargés de discuter de la terre, de l'eau et des droits de l'homme sont constitués. Puis on commence à étudier un projet de déclaration de principe. 5000 Palestiniens des territoires et interdits de séjour sont autorisés à regagner leur foyer. 30 déportés politiques depuis 1967 reçoivent la même autorisation. Ils sont accueillis dans une atmosphère de liesse. Aucun d'eux n'appartient directement au Fatah. Vous voyez sur ces images, ils ont des portraits d'Arafat qui les accueillent et une liesse absolument populaire en Cisjordanie. Du côté israélo-syrien, on continue d'ergoter sur le sens à donner à la paix complète contre un retrait complet. On discute sur les conditions de la simultanéité entre le retrait et la normalisation des rapports. une interview d'Assad accordée à son biographe, le journaliste Patrick Seale, qui était aussi un ami propre de moi, laisse entrevoir la possibilité que Damas soit prêt à se montrer souple sur la question des relations entre les différentes négociations. Le président syrien reconnaît qu'il existe quatre volets et que chacun peut progresser à son propre rythme. Ce qui veut dire, en langage clair, hors dehors de la langue de bois, que la Syrie est éventuellement prête à négocier sans tenir compte du dossier palestinien. Parallèlement, Assad répond négativement à Clinton. Il n'est pas question d'établir un canal secret de communication entre la Syrie et Israël, mais les États-Unis peuvent être dépositaires des positions de chaque partie. Clinton fait alors savoir qu'il a le dépôt de la position israélienne et qu'il attend celui de la Syrie. Assad lui envoie immédiatement une réponse négative. Il s'ensuit une période de tension diplomatique entre la Syrie et les États-Unis. En ce qui concerne le volet israélo-libanais, les Israéliens proposent la formation d'une commission militaire conjointe ayant pour but de régler tous les problèmes sécuritaires concernant les deux pays. Mais les Libanais refusent tout empiètement sur leur souveraineté après le retrait israélien du Liban Sud. C'est-à-dire, en clair, l'armée israélienne voudrait que la LS soit intégrée à l'armée libanaise et les Libanais refusent absolument cette proposition. On procède à l'échange des noms des prisonniers libanais en Israël et des disparus israéliens au Liban. De toute façon, personne ne se fait d'illusions. Les progrès sur ce dossier sont conditionnés par ceux du volet israélo-syrien. Dans le volet israélo-jordanien, on continue de progresser dans la rédaction de l'ordre du jour commun. On échange des textes autour des trois corbeilles. Expression reprise du processus d'Helsinki où on travaillait par corbeilles. La première traitant des frontières, des questions territoriales, de la sécurité et du contrôle des armements. La seconde, les réfugiés et la coopération bilatérale. La troisième, l'eau, l'énergie et l'environnement. Parallèlement se déroulent les sessions des multilatérales concernant les réfugiés et l'eau. Elles se heurtent à l'impossibilité de progresser dans la mesure où on ne reconnaît pas de souveraineté aux Palestiniens. Étant donné que si les Palestiniens n'ont pas de souveraineté, on voit mal comment on peut discuter de la question des réfugiés palestiniens et des questions des ressources en eau. Donc le débat est renvoyé au bilatéral. En revanche, la multilatérale sur le développement économique est plus optimiste. Une contribution de 19,4 millions de dollars est annoncé pour la création d'emplois dans les territoires occupés. Deux thèmes ont dominé les travaux, la demande avancée par les Palestiniens d'une aide d'urgence pour les territoires et l'accent mis par les Israéliens sur la coopération régionale et le développement à plus long terme. Au début du mois de mai, on semble à Washington être entré dans une dynamique encourageante. Aussi, les Américains prolongent d'une semaine la session. Ils sont très impliqués dans les discussions, en particulier du côté israélo-palestinien. Avancée notable, Israël accepte le principe d'un contrôle international des élections palestiniennes. Mais tout s'enraye à partir du 3-4 mai, où 8 Palestiniens sont tués par l'armée israélienne dans les territoires occupés. En protestation, la délégation palestinienne réduit sa participation de 14 membres à 3 le 10 mai. Faisal el-Husseini s'attarde ostensiblement à Tunis, où il est allé faire le point avec Yasser Arafat. Le 12 mai, le Hamas reprend ses attentats contre les forces d'occupation après 6 nouveaux morts dans ses rangs dans la bande de Gaza. En même temps, le Hezbollah s'active au Liban Sud. Alors on s'interroge sur le degré de coopération entre les deux mouvements. Il est certainement faible à cette date, mais les 400 expulsés ont bien été pris en charge par l'organisation chiite. Ça a été l'erreur complète de Rabin. Il a littéralement livré le Hamas au Hezbollah en expulsant 400 cadres islamistes dans la zone tenue par le Hezbollah, donc ce qui a permis de créer des contacts et des liens forts entre les deux mouvements. À la fin de la session, le 13 mai, les Américains tentent d'imposer une déclaration commune de principe entre Israéliens et Palestiniens. Ces derniers rejettent le texte américain et accusent les intéressés d'avoir au préalable discuté de leur texte avec la partie israélienne. Entre les textes palestiniens, israéliens et américains, on trouve les divergences habituelles sur le sens à donner à aux résolutions 242 et 338 sur la nature et la compétence de l'autorité intérimaire palestinienne. Par exemple, les Israéliens parlent de transfert de fonctions de l'administration civile d'occupation, les Palestiniens de pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, les Américains de pouvoir et de responsabilité convenus durant les négociations. Cela comprendra des pouvoirs exécutifs et judiciaires ainsi que des pouvoirs législatifs compatibles avec les principes négociés. Il sera envisagé de réviser la législation dans certains domaines. En ce qui concerne les limites géographiques, les Israéliens utilisent le seul terme de territoire dont le statut définitif sera fixé à l'issue des négociations. Les Palestiniens, ceux de territoire palestinien occupé. Les Américains ont adopté la formule israélienne, contrairement à leurs engagements précédents. De façon générale, le texte américain constitue un assouplissement des positions israéliennes sans en modifier le contenu essentiel. L'impasse à Washington contraste avec les progrès enregistrés dans les discussions secrètes en Norvège, dont la quatrième session s'est tenue le 30 avril 1er mai. Les Palestiniens ont maintenant la certitude que les deux universitaires israéliens sont bien en relation avec les plus hautes autorités de leur pays, Rabin et Peres. C'est bien ce que laisse entendre leur interlocuteur. Ahmed Korai pousse à l'officialisation des discussions avec la participation d'un représentant officiel de l'État hébreu, mais la partie israélienne se dérobe. Il est clair qu'à ce moment-là, les Israéliens donnent la priorité au bilatéral de Washington sur la filière norvégienne, alors que l'OLP préfère cette dernière qui lui donne le rôle principal. Mais l'OLP se trouve en situation de quasi-banqueroute financière, ce qui se répercute sur les différentes institutions et services qu'elle finance dans les territoires et à l'extérieur. Cela s'ajoute à la poursuite du bouclage des territoires dont la situation économique se détériore rapidement. Arafat accuse de façon transparente l'Arabie saoudite de participer à une guerre économique contre les Palestiniens en cessant de fournir des financements. Il est pratiquement étranglé financièrement, d'où son insistance à officialiser la filière norvégienne. Aussi, les représentants palestiniens menacent de mettre fin aux discussions si elles ne montent pas de niveau. Les Norvégiens les poussent à rester et la cinquième session se déroule les 8 et 9 mai. Cette fois, les deux universitaires israéliens sont dans la capacité d'énoncer l'arrivée prochaine d'un représentant officiel israélien. Le 15 mai, le Hamas et le Fatah mènent leur première action conjointe dans la bande de Gaza, tuant deux Israéliens et deux Palestiniens accusés de collaboration économique. Rabin interdit aux civils israéliens de se rendre dans ce territoire. Le 18 mai, cinq militants du Hamas sont tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, portant à 27 le nombre de morts palestiniens depuis le début du mois. Le 20 mai, deux autres Palestiniens sont abattus près d'Hébron. Haïdar Abdel-Shafi souhaite la suspension sine die des négociations. Il est rappelé à l'ordre par Faisal al-Husseini, qui lui fait comprendre publiquement que ce genre de décision est du ressort de la direction de l'OLP. Le 23 mai, Rabin évoque publiquement la possibilité d'une autonomie palestinienne qui, dans un premier temps, serait réservée à la bande de Gaza. Les négociateurs palestiniens refusent de dissocier le sort de ce territoire de celui de la Cisjordanie. Le 24 mai, Christopher invite Faisal al-Husseini à Washington pour discuter de la future cession. Les Palestiniens répondent par un mémorandum comprenant des questions précises. Il en suit des échanges peu amènes, mais non des réponses aux demandes palestiniennes. Au début de juin, un vaste coup de filet conduisant à l'arrestation de 124 militants du Hamas et du djihad islamique est annoncé par Rabin lui-même. Parmi eux se trouveraient les auteurs de plusieurs attentats anti-israéliens. Peres justifie cette opération comme moyen d'éliminer l'opposition armée au processus de paix. Les difficultés du processus de Washington mettent en avant les progrès enregistrés dans la filière secrète norvégienne. Le moment décisif était l'acceptation par Israël de l'élévation du niveau de ses représentants. Il n'est pas question qu'un membre du gouvernement soit envoyé, mais on envoie un haut fonctionnaire, Uri Savir, jeune secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il a été désigné à la mi-mai et participe à la sixième rencontre des 21-22 mai 1993. Les deux universitaires israéliens ne sont plus maintenant que des preneurs de notes. Les instructions de Savir sont claires. Les Palestiniens doivent accepter l'idée que Jérusalem reste en dehors de l'accord d'autonomie et cesser de renvoyer toutes les questions en suspens à un arbitrage international contraignant. Le Conseil de sécurité pourra multiplier ses résolutions numérotées. Elles seront vides de sens. Enfin, il doit proposer de donner l'autonomie à Gaza dans un premier temps, puis éventuellement y installer les instances dirigeantes de l'OLP. Le nouveau venu est soigneusement observé par les cinq partenaires habituels. L'ambiance devient plus formelle. La partie palestinienne marque que seule l'OLP a la capacité de conclure la paix. Le dialogue prend des aspects particulièrement francs, chaque partie tâchant de démontrer qu'elle est victime de l'autre. Néanmoins, on commence à définir la voie de sortie, la fin de l'occupation contre la sécurité pour Israël. Dans l'ensemble, cette prise de contact est fructueuse. Les Palestiniens, ayant contacté Tunis, ont reçu l'autorisation de mettre temporairement de côté la question de Jérusalem. Faisal al-Husseini, sur instruction de Tunis et sans connaître l'existence de la filière norvégienne, accepte maintenant l'option Gaza d'abord avant l'application de l'autonomie à la Cisjordanie. Il s'agit d'une première étape d'un règlement global. À Tunis, Arafat laisse entendre qu'une percée essentielle serait entamée si Israël consentait à appliquer un autogouvernement, un self-government, non seulement sur la bande de Gaza, mais aussi sur une des villes ou toute parcelle de Cisjordanie. De son côté, le ministre jordanien de l'Information réitère l'engagement de son pays à ne pas signer de paix séparée ou toute solution unilatérale qui léserait les Palestiniens. Dans les discussions avec les Américains préliminaires à la nouvelle session des négociations prévues pour le 15 juin, la délégation palestinienne s'en tient à ses lignes rouges qui comprennent le statut de la terre durant la période intérimaire, c'est-à-dire la question de l'arrêt de la colonisation, et celui de Jérusalem. Tous ces signaux envoyés publiquement servent à valider la filière secrète norvégienne. Uri Savir a rendu un rapport très favorable et Rabin et Peres font un pas encore plus décisif en ajoutant à la représentation israélienne un juriste émérite, Yoel Singer, qui a participé aux accords de désengagement avec l'Égypte et à ceux de Camp David. Ce qui compte est qu'il a la réputation d'être un proche de Rabin, ce qui démontre l'intérêt direct de ce dernier dans la négociation clandestine. Pour la session du 14-15 juin, il a préparé toute une batterie de questions destinées à donner un caractère juridique aux propositions jusque-là acceptées par les parties. Jaloux de son autorité, Ahmed Koreï a refusé de se voir adjoindre un juriste et se trouve dépourvu face aux demandes de son interlocuteur, ce qu'il considère à juste titre comme le mettant à l'épreuve sous l'inspiration directe des instructions de Rabin. L'atmosphère est souvent tendue et la session est épuisante, mais maintenant les Palestiniens ont la conviction qu'ils sont en contact par intermédiaire avec Rabin. Quel pouvoir de décision, et non pas Peres, dont on sait qu'il est marginalisé. Quant à Singer, il rapporte à ses supérieurs qu'un accord lui paraît possible. À Washington, la 10e session commence le 15 juin. Dennis Ross vient de se voir chargé du dossier des négociations israélo-arabes en tant que coordinateur spécial pour le Proche-Orient. Son prédécesseur, Edward Derejian, étant nommé ambassadeur en Israël. Les Américains ont marqué leur volonté d'obtenir des progrès tangibles, mais Rabin a marqué publiquement ses limites devant la Knesset. J'ai déjà fait savoir aux Syriens qu'ils n'auront pas tout le Golan. Rabin reconnaît des différences conceptuelles avec les Palestiniens. Je cite, « Nous disons que la responsabilité de la vie quotidienne des Palestiniens sera transférée au Conseil exécutif de l'autonomie, sauf pour ce qui concerne la sécurité générale et celle des Israéliens qui y vivent. Les Palestiniens, en revanche, nous disent « Donnez-nous les clés et rentrez chez vous. » Fin de citation. Rabin maintient sa position de principe concernant l'ONP, je cite, « Ce n'est un secret pour personne que les Palestiniens ne font rien sans l'aval des institutions de Tunis. Notre position est claire, les habitants des territoires sont les seuls responsables des négociations de paix, pas les gens de Tunis. » Fin de citation. Du côté israélo-palestinien, on se met d'accord sur la constitution d'un groupe de travail chargé de rédiger une déclaration conjointe de principes. Les négociateurs palestiniens exigent immédiatement que la question de Jérusalem soit dans son champ, alors que pour les Israéliens, cette question ne devrait être abordée que dans la négociation finale. La partie palestinienne est consciente des souffrances de la population toujours soumise au bouclage. La partie israélienne laisse entendre que certains progrès sur le terrain accompagneraient d'éventuelles avancées à Washington. Achraoui dénonce ce chantage ignoble aux droits de l'homme, rappelant que les droits en question sont précisément des droits et non des éléments de négociation ou de pression sur la partie adverse. Les Israéliens proposent ensuite le transfert immédiat aux Palestiniens de compétences administratives dans les domaines de l'éducation, de la santé, du tourisme et du travail. Il s'agit de faciliter la mise en place d'un régime d'autonomie intérimaire avant l'autonomie définitive. La réponse palestinienne est que c'est trop prématuré. On ne peut pas construire le deuxième étage d'une maison avant d'avoir fini avec les fondations. Il faut un accord global et un pouvoir autonome élu, et non de faire des responsables palestiniens des fonctionnaires de l'occupation israélienne. Dans le volet israélo-syrien, chacun campe sur ses positions. Les Syriens veulent obtenir un engagement sur un retrait complet du Golan des militaires et civils israéliens sur les lignes du 4 juin. Les Israéliens s'y refusent et trouvent que l'expression « paix totale » est trop imprécise. Ils veulent des précisions sur les mesures de normalisation. Ils tentent de faire comprendre à leurs interlocuteurs qu'il ne s'agit pas d'un accord sur le sens de la résolution 242, mais d'une transaction politique entre deux pays. Les intéressés considèrent qu'il s'agit là d'une volonté d'imposer un traité en s'appuyant sur la force du soutien américain à Israël. Ils durcissent leur position et relancent la question du droit au retour des Palestiniens. Du côté israélo-libanais, on retrouve le même type d'impasse. Les Israéliens sont persuadés que l'armée libanaise n'aura pas la capacité de s'opposer aux actions du Hezbollah et des groupes radicaux en cas de retrait du Liban Sud, d'où la nécessité de maintenir l'ALS. Or, cette dernière est considérée comme composée de traîtres par la Deuxième République libanaise et par le Hezbollah. Comme le résume le chef de la délégation libanaise, le problème est que les Israéliens refusent d'accepter le fait qu'ils sont une puissance d'occupation au Liban. Ce n'est pas une simple question de terminologie. Le langage reflète un état d'esprit et tant qu'il n'aura pas changé, les conditions du progrès continueront à manquer. De surcroît, la lutte contre l'occupation du Liban Sud ne peut se faire qu'avec le soutien de la Syrie, qu'Israël accuse de duplicité. Pour Damas, la lutte de libération est légitime et constitue de surcroît un élément du rapport de force, alors qu'Israël exige un apaisement des tensions avant toute percée diplomatique. Le représentant israélien affirme qu'il y aura bien rentrée du Liban Sud une fois des accords de sécurité conclus et que de ce fait, il n'y a pas d'occupation israélienne. La résolution 425 ne constitue absolument pas la base des négociations en cours. On continue d'avancer pragmatiquement dans le volet israélo-jordanien. Mais il est exclu que la Jordanie signe un traité de paix sans avancée majeure du côté israélo-palestinien et Israël rejette toute perspective d'accord intérimaire. Les partis arabes accusent Israël de vouloir dicter ses conditions et en appellent aux Américains pour modifier la situation. Elles veulent une vraie définition du rôle des États-Unis. Comment peut-on être un honnête courtier tout en étant un allié stratégique de l'État hébreu dont on assure la supériorité militaire sur ses voisins? Les Palestiniens reprochent en particulier aux Américains d'aller à l'encontre de la lettre d'assurance de la conférence de Madrid. Ils ne réagissent pas au bouclage des territoires occupés qui coupe les relations avec Jérusalem-Est et ne s'opposent pas à l'intensification de la colonisation dans l'aire municipale de Jérusalem, comme s'ils considéraient qu'elle ne faisait plus partie des territoires occupés. Cette attitude de l'administration Clinton tranche avec celle de l'administration Bush. Maintenant, les seuls à considérer que les États-Unis sont un honnête courtier, ce sont les Israéliens. Les diplomates américains qui s'acharnent à reformuler les positions israéliennes pour les rendre plus acceptables pour les Arabes trouvent profondément injustes les reproches qui leur sont adressés. Mais ils ont bien intégré dans leur esprit le refus israélien d'évoquer le dossier de Jérusalem et de négocier directement avec l'OLP. De ce fait, le document américain présenté le 30 juin aux Palestiniens leur apparaît comme un alignement complet sur les positions israéliennes. Si la négociation est basée sur les résolutions 242 et 338, l'accord sur le statut permanent constituera l'application de ces dites résolutions. Les deux phases de la négociation constituent un ensemble unique. Rien de ce qui se fera avant le statut permanent ne préjugera du résultat final. Lors de la négociation du statut permanent, toute question pourra être soulevée, y compris Jérusalem. L'autorité palestinienne élue aura les pouvoirs et responsabilités pour exercer les compétences qui lui seront transférées selon l'accord. Les Palestiniens, par le transfert des compétences de l'autorité civile, auront la capacité « empowerment » d'avoir un contrôle des décisions qui affectent leur vie et leur destin. La question de la juridiction sur les territoires sera réglée lors des négociations sur le statut permanent. Le texte américain est centré sur la notion d'empowerment, que l'on traduit en français par autonomisation ou capacitation. Capacitation, oui, j'y arriverai. C'est-à-dire par la prise en charge de l'individu par lui-même, de sa destinée économique, professionnelle, familiale et sociale. La notion d'empowerment contourne totalement la notion de droit pour les Palestiniens, puisqu'il n'envisage qu'un transfert de compétences. Si la rhétorique peut paraître attractive, elle ne prend pas en compte la réalité des rapports de force, la pratique continue des faits accomplis et les progrès de la colonisation, en particulier dans les limites municipales de Jérusalem. L'empowerment apparaît ainsi, à juste titre, comme un refus d'accepter une territorialisation de la revendication palestinienne. Les Israéliens avaient déjà formulé des propositions de même nature et avaient reçu un même refus de la part des Palestiniens. La combinaison de la crise financière de l'OLP, du refus de Tunis de laisser une certaine marge d'action aux personnalités palestiniennes qui, de leur côté, ne disposent que d'une autorité morale sur les habitants des territoires occupés, avec la possibilité politique de transfert immédiat de compétences, tout ça rend impossible toute préparation effective de l'autonomie avant la conclusion d'un accord. Autrement dit, le jour venu, il faudra tout bâtir à partir de zéro. La partie israélienne rejette aussi le document américain l'accusant de donner un droit de veto aux Palestiniens en acceptant le principe de réécrire une partie de la version de la déclaration de principe afin de rapprocher les parties. Selon Rabin, les Américains n'auraient pas dû devenir des partenaires à part entière et auraient dû rester de simples intermédiaires. Il semble que ce soit la mention de Jérusalem dans la foulée de la lettre d'invitation de Madrid qui soit la cause du mécontentement israélien. Parallèlement, s'est tenue la 8e session secrète de la filière norvégienne le 27 juin. Singer s'y est rendu sans savoir. Mandaté par Rabin, il apporte de nouvelles propositions. À ce moment-là, on travaille toujours dans l'hypothèse qu'il s'agit d'un texte destiné à être ensuite transmis aux négociateurs de Washington, qui devront l'approuver sans le discuter préalablement. Il est maintenant clairement indiqué que l'autorité palestinienne pourrait s'établir là d'où les forces israéliennes se seraient retirées, c'est-à-dire Gaza ou Jéricho. De même, il y a un accord pour que la question de Jérusalem ne soit abordée que durant la phase finale des négociations. Le message le plus essentiel est qu'Israël prend maintenant au sérieux la filière norvégienne, puisqu'on est entré dans les détails. On aborde aussi la question de la reconnaissance mutuelle. Dans la foulée, le 4 juillet, se tient la 10e session, cette fois avec Savir et Singer. Ils transmettent un avant-projet posant que l'autonomie commencerait à Gaza, puis serait étendue à Jéricho. Ensuite, un accord de transition l'étendrait au reste de la Cisjordanie. Et enfin, on passerait à la négociation finale. Pour les Palestiniens, on remet en cause tout le travail déjà fait. Ahmed Korey proteste vigoureusement, puis fait savoir qu'il a reçu le pouvoir d'accepter les clauses concernant la sécurité. C'est le principal sujet de discussion jusqu'au 6 juillet. Les objections palestiniennes sont prises en compte. Le 1er juillet, trois Palestiniens prennent d'assaut un autobus à Jérusalem. Deux des assaillants sont tués, ainsi qu'une Israélienne prise en otage. L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir monté l'opération. À Washington, Haider Abdel-Shafi déplore l'attentat et affirme que la poursuite de l'occupation israélienne engendre de tels actes isolés qui sont l'expression du désespoir des Palestiniens. Fin de citation. Rabin, de séjour à Paris, accuse les extrémistes musulmans de chercher à torpiller le processus de paix. Au-delà du Hamas, il accuse l'Iran. Je cite, « L'axe principal du terrorisme aujourd'hui passe par des groupes fondamentalistes, c'est le roménisme sans Roméini. » À Tunis, le 4 juillet, après trois jours de délibération, la direction de l'OLP confirme le rejet des textes américains. Warren Christopher exprime son agacement. Si les partis en cause ne veulent plus de l'assistance des États-Unis, on ne l'imposera pas. Le secrétaire d'État et le président des États-Unis ont d'autres choses à faire. Dennis Ross est envoyé en tournée au Proche-Orient en compagnie de Martin Indyk. Tandis que la presse arabe parle d'une deuxième délégation israélienne, Hanan Ashrawi leur propose de reprendre la discussion sur de nouvelles bases, c'est-à-dire les positions américaines traditionnelles qui reconnaissent que Jérusalem fait partie des territoires occupés. Parallèlement, l'Égypte s'engage à travailler à rapprocher les positions. En raison des consignes contradictoires envoyées de Tunis, la confusion règne du côté palestinien sur l'attitude à prendre par rapport à la mission Ross, alors que Rabin se déclare maintenant prêt à accepter le document américain à condition que les Palestiniens en fassent de même. Mais l'attention générale va se retourner vers le Liban. À partir du 5 juillet, la tension remonte dangereusement au Liban sud. Le Hezbollah bombarde la zone de sécurité, faisant des victimes dans la population civile. Le 8 juillet, deux soldats israéliens sont tués et deux autres blessés au Liban sud dans une opération revendiquée par l'FPLP, commandement général d'armée de Jibril. Le lendemain, c'est le Hezbollah qui inflige des pertes plus lourdes à l'armée israélienne, trois tués et cinq blessés, toujours dans la zone de sécurité. Tandis que l'aviation israélienne bombarde les bases du FPLPCG au Liban, Ori Loubrani, le coordinateur des activités israéliennes au Liban, menace Beyrouth de représailles sérieuses. Rabin aborde la question du Liban Sud avec Denis Strauss, qui doit partir pour Damas. Il lui demande d'enjoindre le régime syrien de contenir les groupes armés palestiniens et libanais et de bloquer l'acheminement des armes provenant d'Iran. Damas réplique préemptivement en affirmant le droit de tout peuple à résister à l'occupation. La mission de Ross est un échec apparent. Les représentants palestiniens rencontrés, Faisal al-Husseini et Hamdan al-Shafi, se sont abstenus. Faisal al-Husseini et Hamdan al-Shafi se sont abstenus de rencontrer Ross, donc les autres ont rencontré Ross, qui insiste sur la centralité de la question de Jérusalem, avec pour instruction de Tunis de ne pas formuler de proposition de changement du document américain. Donc c'est la confusion dans la délégation palestinienne, puisque cette fois l'instruction n'est pas demandée de changement au texte sur l'empowerment. Or, Achraoui s'inquiète du risque que constitue l'empowerment dans le domaine de la santé et de l'éducation, des services sociaux et de la taxation. Cette approche fonctionnelle, dit-elle, conduira à séparer le peuple de la terre. Plus on divisera la phase de transition en une pluralité d'États, plus on risque de voir les Israéliens ne transférer que des zones de fort peuplement et conserver le reste dans le cadre d'un système analogue à celui de l'apartheid. Par ailleurs, l'Égypte reçoit un texte révisé des propositions palestiniennes à transmettre et transmis aux Américains sans l'aval de la délégation palestinienne. Quant à Abdel Shafi, il conteste publiquement l'autoritarisme d'Arafat et appelle à une direction collective de l'OLP. Il est vrai que la crise financière de la centrale palestinienne conduit à la suspension des salaires des fonctionnaires et la fin des subventions, ce qui provoque un mécontentement public de la gestion d'Arafat. Les Syriens font porter la responsabilité de la montée de la tension au Liban Sud sur le non-respect de la résolution 425 par Israël. En revanche, Rabin lui fait lire une lettre d'Arafat transmise par les Égyptiens. Le président de l'OLP marque qu'il est prêt à mettre à plus tard toutes les questions sensibles, y compris Jérusalem et la juridiction, afin d'arriver à la conclusion d'un accord intérimaire. En ce qui concerne le Golan, Rabin l'autorise à se laisser entendre à Assad qu'il a compris qu'il n'y aura aucun accord sans un retrait complet et qu'il recherche un accord. Autrement dit, le premier ministre israélien a le choix entre deux options, Arafat ou Assad. Le président syrien se montre intéressé par l'ouverture israélienne. Il reprend la formule une paix complète pour un retrait complet. Cela satisfait Ross, qui pense pouvoir explorer cette voie la semaine suivante. À Washington, on annonce pour le début du mois d'août une tournée de Warren Christopher au Proche-Orient. Pendant que Ross est en Israël et en Syrie, se tient en Norvège, les 11 et 12 juillet, la 10e rencontre secrète. Chaque parti a apporté sa liste d'amendements à la déclaration de principe, d'où des moments de tension où l'on évoque des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser. Mais les Palestiniens transmettent une lettre conciliante d'Arafat marquant sa volonté de réconciliation entre l'OLP et l'État d'Israël et son rejet de la violence. Il faut tenir compte de l'opinion publique palestinienne, d'où un retrait rapide de Gaza et de Jéricho et l'établissement sur place de l'OLP. Il insiste sur la nécessité d'un arbitrage extérieur et d'une présence internationale dans les territoires pour garantir l'application des accords, ce qui est inacceptable pour la partie israélienne. Néanmoins, cette dernière voit se dessiner la possibilité d'un partenariat fondé sur une légitimation mutuelle, sur des assurances réciproques concernant la sécurité de l'autre partie et sur la prospérité économique. On n'est donc que dans une apparence de blocage. Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Johan Jørgen Holst, travaille activement à débloquer la situation en se rendant immédiatement à Tunis pour transmettre l'assurance de Rabin et de Peres que la filière norvégienne est bien une négociation directe entre l'OLP et Israël et qu'ils sont prêts à se montrer souples sur certains points. Arafat montre qu'il a suivi attentivement et approuvé les travaux de la filière. Il fait valoir que plus la zone placée sur son contrôle sera vaste, plus il serait à même de réprimer les fauteurs de troubles. Il faut qu'il soit installé dans les territoires occupés afin de pouvoir s'occuper du Hamas. Quand il était au Liban, il avait été capable de diviser ceux qui s'opposaient à son autorité, et c'est ce qu'il ferait de nouveau en Cisjordanie et à Gaza. Les Norvégiens s'empressent de transmettre le message aux Israéliens. Peres les charge de dire sans ambiguïté que trois choses étaient hors de question. Étendre l'autonomie à Jérusalem, augmenter la superficie de l'enclave de Jéricho et d'accorder aux Palestiniens quelques formes d'accès extraterritorial, que ce soit entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les Norvégiens font passer le message et Arafat répond le 20 juillet qu'il est prêt à conclure et à signer et qu'il s'agit d'une occasion unique qui risque de ne pas se reproduire. À la mi-juillet, les échanges de messages entre Tunis et Israël par le biais des Égyptiens et des Norvégiens se sont ainsi intensifiés, tandis que la presse se fait écho de façon plus ou moins insistante de contacts secrets entre Palestiniens et Israéliens. Mais la tension reste très forte au Liban, où le 17 juillet, deux soldats israéliens sont blessés dans une embuscade. Le gouvernement israélien assimile la défense de la zone de sécurité à celle du nord d'Israël, alors que le président libanais, Elias Rawi, réaffirme, après avoir rencontré Hafez al-Assad, que la résistance se poursuivra jusqu'au retrait d'Israël du Liban sud et que le Liban ne signera pas d'accord séparé avec Israël avant les autres pays arabes, donc en premier lieu la Syrie. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Ehud Barak, menace publiquement le Liban d'une nouvelle intervention militaire. Le 22 juillet, le Hezbollah lance une offensive majeure contre les positions de la LS. Un nouveau soldat israélien est tué dans la zone de sécurité. Immédiatement, les Israéliens apportent le soutien de leur artillerie et de leur aviation à leurs supplétifs libanais. Le pilonnage israélien atteint la ville de Nabatieh, blessant plusieurs plus civils. Le 23 juillet, des tirs de Katyusha atteignent la Galilée israélienne, ne faisant ni dégâts ni victimes. Le 25 juillet, Israël se lance dans un bombardement généralisé du Liban sud. Des positions de l'armée syrienne sont frappées. C'est la plus importante action au Liban depuis 1985. Barak promet, si le calme ne règne pas sur les localités juives du nord d'Israël, il ne règnera pas non plus sur le Liban. Toute attaque contre nous sera suivie d'une riposte très dure, douloureuse et immédiate. Fin de citation. Mais la résistance islamique entend conserver sa logique de contre-dissuasion. Le doigt de Galilée est l'objet de plusieurs salves de roquettes. On est maintenant dans un processus d'escalade. La stratégie israélienne est définie par le président de la très influente commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, le général de réserve Ori Or. Cette opération n'arrêtera pas les attaques du Hezbollah, pourtant elle devrait permettre de créer un nouveau contexte. La population villageoise chiite, excédée par nos bombardements, devrait faire pression sur le gouvernement libanais pour extirper le Hezbollah de ses villages. Ils seront donc contraints de monter vers le nord et le calme reviendra dans la région. Sinon, nous continuerons à les frapper. C'est la nouvelle doctrine de l'armée israélienne qui est donc de frapper la population civile de façon systématique afin de provoquer un exode de la population vers le nord et amener un décrochage du soutien de la population au Hezbollah, selon le principe traditionnel d'une guérilla, et en particulier celle de Hezbollah est une guérilla par excellence. Les combattants sont des poissons dans l'eau, donc la stratégie israélienne reprend la définition de vider l'eau pour isoler les poissons. Inutile de vous dire que c'est encore cette stratégie qui est appliquée de nos jours dans la bande de Gaza. Le but de rechercher est donc de frapper la population civile afin de l'amener à se séparer du Hezbollah. Le 26 juillet, les habitants du Liban Sud sont sommés de quitter leurs habitations. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés fuient vers le nord. C'est l'opération règlement de compte, puis retraduite en français pour des raisons de propagande, justice rendue. En anglais, accountability. On présente l'action comme la première confrontation entre l'Iran et Israël. Le Hezbollah maintient ses tirs sur la Galilée où la population doit se terrer dans des abris. Washington fait porter la responsabilité de la crise sur le Hezbollah tout en ménageant la Syrie et en tentant d'obtenir un cessez-le-feu. Comme les Américains ne peuvent ni ne veulent parler avec le Hezbollah, la négociation se fait directement avec les autorités de Damas qui voient ainsi leur position de meneur de jeu confirmée. C'est le scénario qui s'établit là, va se reproduire à de nombreuses reprises au Liban et dans la bande de Gaza jusqu'à aujourd'hui. Donc là, vous avez l'exode de la population du Liban Sud vers le nord du Liban, ou le centre du Liban. À partir du 28 juillet, l'armée israélienne s'attache à détruire systématiquement l'infrastructure des villages. L'inconvénient de ce genre de stratégie est de remplir les médias internationaux des images de près de 400 000 réfugiés avec l'implication de lancer des actions humanitaires correspondantes avec l'envoi d'aide d'urgence. De surcroît, le Hezbollah adopte une rhétorique symétrique à celle d'Israël. Lorsqu'Israël confisque la sécurité de nos villages, il est normal que le nord d'Israël ne bénéficie pas de la sécurité. La résistance islamique cherche à créer un nouvel équilibre avec l'ennemi et le Hezbollah est prêt à une bataille de longue durée. Nasrallah se donne ainsi la possibilité de dicter la solution. La résistance islamique se dit prête à stopper ses tirs contre la Galilée si Israël met fin à son agression et ses bombardements au Liban Sud. C'est sur cette base qu'est conclu un accord verbal, entre guillemets. Les deux parties s'abstiendront à l'avenir de s'en prendre aux populations civiles, les Israéliens conservant le droit de retourner le feu en cas de tir contre eux dans la zone de sécurité. Le cessez-le-feu est instauré dans la journée du 31 juillet. Chaque partie se déclare victorieuse. Israël se félicite d'avoir établi sa capacité de dissuasion tout en reconnaissant que les pertes subies par le Hezbollah sont minimes. Citation, les intégristes sauront à l'avenir se tenir à carreau, réfléchir à deux fois avant de tirer des roquettes contre la Galilée. Nasrallah assure de son côté, je cite, que la résistance poursuivra sa politique d'affrontement par tous les moyens disponibles. Il existe désormais une nouvelle équation. Si nous sommes contraints à l'exode, nous contraindrons les Israéliens à l'exode en bombardant les colonies de peuplement. Fin de citation. Les États-Unis ont préservé le processus de paix, mais sont apparus de nouveau comme les alliés proches de l'État hébreu, d'où une nouvelle poussée d'anti-américanisme dans la région. Le bilan humain, outre les 400 000 réfugiés et les destructions d'habitations, est de 130 tués libanais, dont seulement 9 combattants, et 510 blessés. Les tirs de Katyusha sur la Galilée israélienne ont fait en une semaine 2 morts et 34 blessés. Dès le 5 août, le Hezbollah reprend ses opérations contre l'ALS. Certes, l'armée libanaise commence à se déployer dans les secteurs limitrophes de la zone de sécurité, où la FNUL opère déjà, mais elle marque que sa mission est d'aider la population du Liban Sud à rester dans ses foyers face aux agressions israéliennes et d'éviter tout incident de sécurité dans les villages. Toute information selon laquelle le déploiement est dirigé contre la résistance à l'occupation, qui reste un droit naturel des citoyens jusqu'à la fin de l'occupation, est dénuée de tout fondement. Fin de citation. Elle refuse toute perspective d'affrontement avec la résistance islamique. Le 19 août, l'armée israélienne perd 8 hommes dans une embuscade dans la zone de sécurité, action compatible avec le compromis verbal conclu par l'intermédiaire des Américains. Rabin adopte un profil bas. Je regrette que le Hezbollah l'ait emporté sur nous hier. Nous devons nous adapter à ces formes de lutte tout en minimisant nos pertes, mais on ne peut garantir qu'il n'y ait pas de victimes. Fin de citation. Il reconnaît qu'il ne servirait à rien d'aller jusqu'à Beyrouth ou d'agrandir la zone de sécurité. Ainsi, en dépit des destructions dues à l'armée israélienne, c'est bien la résistance islamique qui imposait la règle du jeu. Et je vais vous laisser là en plein suspense pour les 5 minutes conventionnelles de pause. Et nous reprendrons donc à ce moment-là.